When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Loi qui nous permet de tamponner le véhicule au besoin. Donc il y a des solutions et croyez-moi, si on faisait au primo délinquant une mesure éducative entre guillemets punitive et 24 heures ou 48 heures de prison, vous n'allez pas remettre tout le monde dans le droit chemin, mais en termes de vertu pédagogique, vous faites une quelque chose et dans la semaine vous êtes en prison, même sur 24 heures ou 48 heures, je crois que vous réfléchissez à deux fois avant de recommencer. Évidemment, si vous n'êtes jamais puni et deux ans après vous attendez encore votre première peine alors que vous en avez fait 10 autres, ça ne marchera jamais et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui.
Merci beaucoup Fabien Van Henelrich, secrétaire général d'Alliance Police. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous quatre, évidemment. L'info se poursuit avec Nelly Denac et 90 Minutes Info qui continuera à vous faire vivre cette marche blanche à plus tard. Et on va retrouver tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux qui est sur place.
Oui, tout à fait Thierry, on est toujours dans cette marche blanche à Nanterre, marche blanche qui a débuté aux alentours de 14h dans la cité Pablo Picasso. Un départ initial devant la préfecture mais qui finalement au dernier moment a été décidé, départ dans la cité Pablo Picasso. C'était une marée humaine, des dizaines de milliers de personnes qui ont pris la direction du lieu du drame, le lieu du drame où ce jeune Naël de 17 ans a été tué par un policier lors d'un refus d'obtempérer. On a pu entendre lors de cette marche blanche des chants demandant la justice pour Naël, des chants également anti-police, des chants qui invitaient Gérald Darmanin à démissionner, et également, il faut bien le reconnaître, énormément de menaces à l'encontre de journalistes. D'ailleurs, les médiateurs et certaines personnes à l'intérieur de ce cortège ont déconseillé aux médias de venir au plus près de cette marche blanche, de peur effectivement que les jeunes des quartiers très en colère, très remontés, s'en prennent justement aux médias. Étrangers également présent non aujourd'hui à Nanterre dans les Hauts-de-Seine pour couvrir cette marche blanche. Un dispositif policier dans la cité Pablo Picasso réduit à néant. Aucune force de l'ordre visible à l'intérieur même de cette cité Pablo Picasso. En revanche, à l'approche de la préfecture des Hauts-de-Seine, nous avons pu voir un cordon de CRS en place pour protéger ce bâtiment public. Et c'est à ce moment-là qu'un léger point de crispation s'est passé, puisqu'effectivement la marche blanche est passée devant ce cordon de CRS. Quelques intimidations ont eu lieu de quelques jeunes à destination de ces CRS casqués qui n'ont pas répondu. Et à ce moment-là, les médiateurs, qui sont quand même présents en nombre, hein, quelques dizaines de médiateurs vêtus de rouge, sont arrivés très rapidement et ont découragé ces jeunes de s'en prendre à la police. Et c'est là que l'on voit ce rôle des médiateurs qui, au quotidien, agissent dans ces quartiers. Ça a été le cas les dernières nuits, même si des violences ont eu lieu. Ils sont sur le terrain, ils nous l'assurent, ils découragent certains de commettre des actions délictuelles. C'est en tous les cas ce qu'ils nous disent et ce que nous, on peut constater ici sur le terrain. Cette marche blanche, c'est une façon pour certains de canaliser la colère. Le maire de la ville de Nanterre est présent dans cette marche blanche. Il souhaitait que ce rassemblement soit une grande manifestation pacifique à la mémoire de ce jeune nanterrien. Des députés également sont présents, de la France Insoumise, du Parti écologiste, du Parti socialiste, Parti communiste, c'est véritablement une marche qui tourne également, qui prend un virage politique avec la présence de ces différents députés à l'intérieur de ce cortège. Il faut savoir que là, la marche blanche va arriver d'ici quelques minutes sur le lieu du drame, à proximité de la station de métro Nanterre préfecture. C'est à cet endroit-là que ce jeune Naël de 17 ans a été tué mardi par un policier alors qu'il refusait d'obtempérer à un contrôle de police. Les personnes présentes durant cette marche blanche venaient d'horizons divers. Il y avait à la fois des Nantériens, mais également des personnes venant de d'autres villes, venant également de la capitale, mais de d'autres banlieues et de différents profils, à la fois des jeunes, des personnes plus âgées également, des familles. Mais il faut quand même le reconnaître, énormément de jeunes de quartier très motivés, très énervés et que l'on sent à fleur de peau suite à tout ce qui s'est passé ces dernières heures, et des jeunes qui veulent en découdre. Nous avons vu des pancartes anti-police, avec un soulèvement des banlieues. Ces jeunes-là qui composent cette marche blanche, effectivement, sont en colère, et c'est aussi ce que nous disent tous ces médiateurs. Ces policiers qui sont toujours en place ici, non loin de nous, près de la préfecture des Hauts-de-Seine, eh bien, ont quadrillé, si vous voulez, le cortège de cette marche blanche qui va arriver d'ici quelques minutes à son point de chute.
Merci beaucoup. On reviendra bien évidemment à ces images, à cette marche blanche qui a débuté aux alentours de 14h, il y a une heure et demie maintenant. Juste le temps de retrouver Somaïa Labidi pour un rappel des principaux titres. Bonjour Somaïa.
Football, le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab en compétition. Dans sa décision, la haute juridiction estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité. En revanche, la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Les suites judiciaires pour le policier qui a tué Naël mardi matin. Le procureur de Nanterre a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire et a requis son placement en détention provisoire. Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme par le policier ne sont pas réunies, a estimé le magistrat lors d'une conférence de presse donnée en fin de matinée. Et puis au lendemain d'une deuxième nuit d'émeute urbaine, Éric Dupond-Moretti a dénoncé ceux qui crachent sur la police et la justice lors d'un déplacement à la prison de Fresnes. Le garde des Sceaux ajoute qu'ils se rendent complices moraux des auteurs des violences commises en réaction à la mort de Naël et que seule la justice peut pacifier les choses.
Merci beaucoup. Tandis que Sandra Buisson, bien sûr, est restée sur ce plateau. Merci Sandra d'être là à nouveau. On accueille à 15h30 Rosa Méziane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes présidente de Move Territoire. À vos côtés, Vincent de la Morandière. Vous êtes avocat pénaliste. Bienvenue à vous également. Et William T, qu'on a plaisir à retrouver aussi sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du Millénaire. Cette marche blanche, c'est bien sûr l'actualité cet après-midi. À l'appel de la famille de Naël à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, d'où tout est parti la veille. Mobilisation forte avec plusieurs milliers de personnes. On le voit bien, hein, ce cortège qui s'étire sur plusieurs centaines de mètres, un cortège bien encadré avec un certain nombre de banderoles qu'on pourra évidemment commenter ensemble. Beaucoup de figures de la gauche, bien sûr, du monde associatif également. On a aperçu Marine Tondelier, Aurélien Taché pour la NUPES. Et puis il y a aussi la présence d'Assa Traoré. Elle partage le même avocat avec la mère de Naël. Cet appel, il est parti hier. Il a été donc très suivi. C'est une image, Vincent de la Morandière, qui tranche évidemment avec la nuit qu'on a vécue un peu partout en France. On va évidemment y revenir très largement aussi dans cette édition.
Oui, tout à fait. En fait, il y a un objectif pour la justice qui est inhérent à la justice, qui est un objectif de pacifier les choses. Sur ce point-là, le garde des Sceaux vient de le dire et je trouve que c'est adroit au sens technique. Il y a eu une nuit extrêmement mouvementée, mais le but maintenant, face à ce qui vient de se passer, c'est que les choses se pacifient dans un premier temps et qu'elles changent dans un deuxième temps. Et en fait, on voit dans ce dossier-là quelque chose de très intéressant, c'est que heureusement, malgré les faits, heureusement qu'il y a eu une vidéo qui a été prise initialement, parce que la police a une forme de monopole dans l'appréciation des preuves, dans la détention des preuves, dans la constitution des preuves, alors que dans le système judiciaire, la preuve est tout à fait libre. Et en fait, le but maintenant, c'est que quand la paix sera revenue dans ce dossier-là, on repense largement, simplement, la question du monopole de la preuve par les services de police.
Alors c'est vrai que le terme d'apaisement est revenu dans la bouche de la plupart des ministres qui ont été amenés à s'exprimer aujourd'hui, l'exécutif qui était sur le terrain dès ce matin, dès la fin au fond de cette cellule de crise qui avait été enclenchée à l'Élysée. William T, apaisement dans la voix d'Elisabeth Borne, apaisement également du côté d'Éric Dupond-Moretti, qu'on a senti d'ailleurs très grave dans le propos. Et puis surtout ce qu'on retient, c'est cette demande de ne pas céder à ce côté inflammatoire, à la récupération politique. Attention, chacun aujourd'hui, et y compris les responsables politiques, les élus qui ont répondu présents, doivent faire preuve de responsabilité. C'est ça qu'on comprend.
Oui, je pense que c'est une communication qui est plus adaptée que la communication qui a été tenue la veille. Je pense que cet hommage et cette mobilisation montrent que des gens ont été touchés par ce qui est arrivé à Naël et sa maman qui a perdu son fils. Je pense que ça a touché beaucoup de monde, comme en témoignent les nombreux témoignages de personnalités politiques, de personnalités sportives, associatives, artistiques, etc. Et je pense que ce rassemblement montre davantage un lien avec un hommage, une solidarité avec Naël décédé et ses parents, enfin sa mère et sa famille, que les événements qui sont passés hier. Parce que lorsque vous vous rassemblez dans un hommage, vous témoignez une solidarité et un soutien. Lorsque vous essayez de casser des biens publics, vous n'êtes pas dans la solidarité et un soutien envers la famille. Je ne pense pas que Naël et sa mère soient satisfaits que des gens, au nom de son fils décédé, brûlent des écoles, brûlent des biens publics, etc. Donc, je pense que ce discours et cette mobilisation est plus en phase. Malgré tout, je pense que les discours ont été mal tenus, même de la part du gouvernement hier. Lorsque vous dites que la justice doit pacifier, effectivement, c'est le rôle de la justice de pouvoir pacifier la relation, parce que nous sommes dans une démocratie et seule la justice est capable de déterminer la vérité. Seulement, lorsque vous dites, comme président de la République, que le meurtre est inexcusable, est-ce que vous n'êtes déjà pas en train d'allumer la chaudière en vue de déjà déterminer si le policier est coupable ou pas? À partir du moment où le tribunal médiatique et certaines personnalités se sont rendues justice eux-mêmes en disant que le policier était coupable avant même que la justice puisse s'exprimer, je pense que ça a pu envenimer les choses et conduire aux événements dramatiques qu'il y a eu hier soir.
Surtout que certains ont noté un paradoxe dans le propos d'Emmanuel Macron hier, dans la même phrase, au fond, il disait il faut que la justice fasse son travail tout en
condamnant le policier automatiquement.
Déclarant directement que c'était injustifiable. D'ailleurs, il aurait repris ce terme d'injustifiable à propos de ce qui s'est passé hier, sauf que là, peut-être, il l'a utilisé un peu moins à la hâte, Rosa Méziane, et peut-être plus à bon escient, dirons-nous. Il avait beaucoup été critiqué pour sa prise de parole hier, quand même.
Le problème, c'est que s'il ne prend pas la parole, on estime qu'il ne s'intéresse pas à ce fait divers qui est dramatique, et quand il la prend, on n'est jamais satisfait de sa prise de position. Moi, je crois que, comme tout le monde, il a pu être touché par ces images, bien qu'il puisse être le représentant de la nation. Et que, vous savez, bien que la justice est indépendante et qu'on attend tous que la justice passe, je crois qu'on a pu tous être frappés, en fait, par ces images. Et d'ailleurs, l'avocat ici présent l'a rappelé, les policiers ont commencé d'abord par mentir, par nous expliquer, en fait, que la voiture leur fonçait dessus et que c'est pour ça qu'ils avaient fait feu. Et c'est une fois que les images sortent sur les réseaux sociaux que leur version diverge et qu'effectivement, ils parlent d'une légitime défense et qu'ils ont eu peur que la voiture les renverse alors qu'ils sont sur le côté. Et c'est tout le drame de ce genre d'affaires parce que malheureusement et tristement, ce n'est pas la première. Naël n'est pas le premier. Avant ça, vous avez Souhel à Marseille, puis vous avez Adama Traoré, puis vous avez Ziad Ebouna. En fait, on a une multitude
de
décennies.
Il y a 30 ans d'histoire des meutes de
exactement. Et je crois que c'est encore l'affaire de trop. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde, autant d'émotions, parce que ces gens qui manifestent, en réalité, ça aurait pu être eux, ça aurait pu être leur frère, ça aurait pu être le voisin ou le gamin du quartier.
C'est pas totalement exact, parce qu'il n'y a pas tout le monde dans cette foule qui fait des refus d'obtempérer, qui conduit une voiture à 17 ans.
Par contre, ça aurait pu très bien être leur frère, leur voisin. Enfin, pardonnez-moi, vous n'y étiez pas, mais moi j'y étais à la manifestation. Je suis native de Colombes, je travaille dans les quartiers populaires.
J'ai joué dans les cités aussi, ça arrive à tout le monde.
Mais moi j'y suis née, j'y ai grandi, j'y travaille encore.
Mais ce serait faux de faire un amalgame en disant que tout le monde fait des refus d'obtempérer et tout le monde défie les forces de l'ordre. C'est pas totalement exact, madame.
Si vous pensez me faire dire qu'aujourd'hui les quartiers populaires sont un amas de délinquants, non, vous ne trouverez pas.
C'est ce que vous dites.
D'accord. Pour autant, l'émotion qui est palpable aujourd'hui lors de cet hommage, c'est qu'effectivement ces gens se sont reconnus en fait dans la détresse
et
de cette mère, mais aussi, certes, mais je vous dis quand même les témoignages que j'ai pu recevoir, c'est que ces gens-là se sentent concernés parce que ça aurait pu être.
D'accord. Mais revenons au terme d'injustifiable. Cela justifiait-il qu'il y ait une telle incandescence, un tel embrasement hier 720
non, mais vous savez, rien ne justifie à un moment donné qu'on puisse détruire les biens publics. Rien ne justifie la violence,
donc,
pas plus que la
donc
violence
vous
des gilets.
Quand même, ce qui s'est passé.
Mais bien évidemment, attendez. Vous savez, lorsqu'il y avait eu de la violence de la part des ultra jaunes, j'étais la première à les condamner, bien que la crise sociale était réelle et profonde. Lorsqu'il y a eu des échauffourées pareilles pendant les manifestations pour les retraites, j'étais la première à les dénoncer. Ça paraîtrait incohérent qu'aujourd'hui, alors que certains quartiers peuvent être à feu et à sang la nuit tombée, je ne puisse moi pas les condamner. Bien sûr que nous les condamnons et fermement. Pour autant, on ne peut pas, encore une fois, systématiquement appeler au calme et faire comme si cette affaire ne disait pas quelque chose. Et
on en viendra aux moyens de contenir la tension, parce qu'évidemment, personne n'a envie qu'on reparte dans un nouveau cycle de violence. Il y a déjà eu une deuxième nuit qui est allée crescendo, qui n'avait rien à voir. C'était sans commune mesure avec ce qui s'était passé la veille, où c'était encore à chaud et où la vidéo venait en effet d'être diffusée. Mais tout le monde a intérêt aujourd'hui à ce que le climat s'apaise. J'aimerais qu'on retourne dans la marche avec une de nos équipes. La marche passe près du lieu où Naël a été tué. Et il y a déjà quelques comment dire, quelques échauffourées ou en tout cas quelques provocations à l'endroit de forces de l'ordre qui sont postées là.
Excusez-moi Nelly, est-ce que vous pouvez répéter votre question s'il vous plaît? J'ai un petit problème de réseau.
Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Il semblerait que sur le parcours de la marche, il y ait des forces de l'ordre et que ça donne lieu à quelques tensions d'ores et déjà.
Oui, effectivement, la marche vient d'arriver devant la préfecture sur la place Nelson Mandela depuis quelques minutes maintenant et on assiste aux premiers affrontements avec les forces de l'ordre. Vous voyez sur les images de mon collègue, les CRS se mettent en place pour riposter aux attaques des personnes qui envoient des tirs de mortier mais également des gravats vers les forces de l'ordre. Pour l'instant, la manifestation se passait plutôt bien. Il y avait énormément de provocations envers la police avec beaucoup de slogans. Mais vous le voyez donc sur ces images, les premières tensions arrivent avec des tirs de grenades lacrymogènes de la part des CRS. Les manifestants répliquent avec des tirs de mortier, mais également des gravats donc, à destination des CRS. Donc les premières tensions à Nanterre.
Merci beaucoup. On reviendra vers vous, évidemment, et vous restez quand même à l'abri. Ne prenez pas de risques inconsidérés. J'aimerais qu'on rejoigne via Skype Erwan Ruti, qui est entrepreneur social en banlieue, qui nous a sans doute écouté lors du début de ce débat. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct. Est-ce que vous avez été surpris? Bonjour. De l'ampleur qu'a pris l'embrasement hier, où au fond vous vous êtes dit, dès la diffusion de la vidéo, attention, c'est une étincelle.
Bonjour, déjà je pense qu'il faut effectivement rendre hommage, comme tout le monde le fait, aux personnes, à la personne qui est décédée et soutenir sa famille. Mais au-delà de ce mot de réconfort, je pense que personne ne sait comment peut naître une émeute, comment des échauffourées peuvent éclater. Et dans certains cas, l'étincelle prend, et dans d'autres pas, c'est très difficile de savoir. Par contre, ce qu'on peut constater quand même, c'est que ce genre de phénomène est récurrent, finalement, depuis quasiment 40 ans. Je me permets de dire qu'on est en 2023 et que en 1983, il y avait déjà des échauffourées, voire des sortes d'émeutes qui éclataient entre des jeunes et de la police, en particulier dans les banlieues lyonnaises, à Vénissieux en particulier, et que si on peut, ça fait donc 40 ans exactement. Et que c'est là que, d'une certaine manière, les banlieues ont commencé à émerger, je dirais, sur le terrain médiatique français. Avant, on ne les connaissait pas beaucoup. Et à partir de là, il y a eu déjà des jeunes qui se sont fait tirer dessus par des policiers et qui ont réagi parfois, pour un certain nombre d'entre eux, en s'émeutant, vous me permettrez le néologisme, mais parfois aussi en essayant de trouver des moyens pacifiques. Et qu'est-ce qui fait que, d'une certaine manière, on arrive à trouver des moyens pacifiques quand on est très en colère, malgré la colère? Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à s'organiser pour se faire entendre, comme ça a été le cas en 1983, puisque à l'époque, quelques temps après que ce jeune Toumi Djadia, pour ne pas le nommer, s'est fait tirer dessus par un policier, il était à l'hôpital, il a survécu, mais il a été assez rapidement soutenu et encadré par un très grand nombre d'associations, d'organisations, de syndicats, qui ont tout de suite, qui sont venus à son chevet, j'ai envie de dire, et qui ont conçu avec lui, avec ses amis, et avec beaucoup d'autres jeunes de Vénissieux, puisque ça s'est passé à Vénissieux, tout un processus qui n'est pas né comme ça en un seul jour, mais qui a mis beaucoup de temps pour émerger, dans lequel, au final, on a créé, on a lancé une marche qui est partie finalement quelques mois plus tard de Marseille et qui est arrivée au bout de 3 mois de marche. Ils sont partis à quelques dizaines, ils sont arrivés finalement à 100 000 à Paris. Ils ont été reçus par le président de la République. Tout ça, ça a été possible parce que le milieu associatif et les corps intermédiaires, à l'époque, étaient extrêmement puissants. Aujourd'hui,
Erwan Ruti, si on revient à ce qui se passe aujourd'hui, si on le ramène au contexte du jour, donc vous dites que ça fait 40 ans de gouvernements successifs, y compris donc de gauche, puisque ce que vous décrivez en 1983, c'était sous un gouvernement socialiste à l'époque. Donc, je veux dire, quelle que soit la couleur politique qui a occupé le pouvoir, on n'a pas réussi à prendre la mesure ou à comprendre l'ampleur du problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la fracture est telle entre la police, ou en tout cas la perception qu'on en a, qu'une partie de la population en a, et cette partie de la population, qu'il faut tout remettre à plat? Qu'est-ce qu'il faut faire, y compris du point de vue des règles d'engagement?
Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat sur les questions de la sécurisation des banlieues, etc. Ce que je voudrais essayer de pointer en parlant du temps long, c'est qu'effectivement, les rapports se sont considérablement dégradés, mais ils étaient déjà très, très, très mauvais il y a 40 ans. Donc, il n'y a pas de nouveauté là-dessus, j'ai envie de dire. Par contre, ce qui a changé, c'est là, tout ce qui est l'environnement de tout ça. L'environnement de tout ça, c'était qu'en France, à cette époque-là, et ça a été le cas même jusqu'en 2005, hein, et quelques années après encore, il y avait des organisations, il y avait des associations, il y avait des mouvements d'éducation populaire, des syndicats, des partis, y compris parfois, qui étaient beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont aujourd'hui, et qui étaient capables de transformer une colère en revendications concrètes. Aujourd'hui, les associations dans les quartiers sont dans un état désastreux. Désastreux parce que les financements n'ont pas suivi et puis parce que elles ne savent plus d'une certaine manière très bien comment être soutenues.
Merci.
Les interlocuteurs trouvés. On a un vrai problème de corps intermédiaire.
Merci beaucoup.
C'est bien plus grave qu'il y a 40 ans.
Merci.
Pour ça, on doit reconstituer et réinjecter un peu de muscle dans tout ce qui a disparu et c'est la première solution. Réjeter du muscle, ça veut dire quoi? On va commencer par ce qu'il y a de plus basique. C'est déjà de financer les choses autrement. On a déversé des milliards d'euros, à bon escient, évidemment, c'était nécessaire, dans l'urbain, depuis les programmes de rénovation urbaine, depuis une vingtaine d'années.
Merci beaucoup.
Qu'a-t-on fait dans l'humain? Qu'a-t-on fait pour l'humain? Qu'a-t-on fait pour les associations et pour reconstituer?
Alors justement, on pourra avoir ce débat sur le plateau.
D'encadrer
sur le plan, des moyens qui ont été alloués, parce que bon, ceux qui défendent en fait l'exécutif disent qu'il y a eu des millions et des millions qui ont été déversés et ça n'a pas toujours servi. Alors peut-être que les moyens n'ont pas été alloués adéquatement.
Il y a déjà peut-être un souci de verbe.
J'aimerais juste qu'on retourne sur le terrain, si vous permettez, Rosa Méziane, parce qu'il se passe des choses et notre équipe est là pour les commenter. On sent qu'il y a une gradation quand même dans la tension. On a franchi un nouveau palier, c'est visible sur ces images.
Oui, tout à fait, Nelly. Une tension qui est montée assez rapidement depuis que la marche blanche est arrivée à son terme sur le lieu de l'accident. Depuis tout à l'heure, c'est une pluie de gravier, effectivement, sur les forces de l'ordre. Alors, on est obligé de se mettre à couvert, évidemment, pour éviter de se faire tirer dessus. Des feux ont été allumés dans les jardins de la ville. Les forces de l'ordre tentent de récupérer le terrain, mais la situation devient assez compliquée puisque ce sont évidemment des milliers de personnes qui sont regroupées sur la place où il y a eu cet accident, ce drame, la mort de ce jeune Naël, et donc les forces de l'ordre qui commencent à entourer ce quartier pour tenter effectivement de garder le calme, mais la situation peut dégénérer à tout moment avec ces feux de broussailles qui sont en train de se disperser, pardon, pas de se disperser, mais de prendre de l'ampleur avec le vent qui souffle ici à Nanterre, et de très nombreux pavés au sol qui sont jetés des jeunes de quartier en direction des forces de l'ordre qui pour le moment tentent encore une fois de maintenir ces jeunes à distance, notamment à coups de jets de gaz lacrymogène, comme c'est le cas actuellement au loin à travers les fumées. On le distingue un petit peu, ces jeunes qui courent dans tous les sens pour effectivement échapper à ces gaz lacrymogènes, et les forces de l'ordre qui nous disent à l'instant de nous décaler puisqu'effectivement on les entrave un petit peu dans leur manipulation.
Sandra Buisson est restée avec nous. Sandra, donc ces quartiers qui se sont à nouveau embrasés la nuit dernière, deuxième nuit consécutive, on le rappelle, il y a eu plus de 700 départs de feu, des tirs de mortier, des cocktails Molotov, des policiers attaqués, des commerces saccagés. C'est une nuit qui a été très très longue, à la fois en Île-de-France, mais pas seulement, hein, sur l'ensemble du territoire. Il y a eu des points de tension, de crispation et même d'affrontement. La liste donne un peu le vertige, alors on ne va pas vous l'adresser là, mais on a quand même cette carte de France qui vous montre un petit peu tous les points où ça a été très chaud hier. Et puis on a senti surtout des pompiers et des policiers débordés par l'ampleur des dégâts, au point que le dispositif pour ce soir, en prévention, donc, a été considérablement renforcé.
Oui, hier, il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés au niveau national, dont 2000 en région parisienne. Et ce soir, ce sera 40 000 policiers et gendarmes au niveau national, dont 5000 en région parisienne. Vous l'avez dit, les violences urbaines ont débordé la région parisienne, puisqu'il y a eu des attaques de commissariats, de mairies, de bibliothèques ou d'écoles. Je vous cite quelques noms, mais à Roubaix, à Mont-Saint-Barœul, Tourcoing, Amiens, Compiègne, Sens, Tours, Saint-Étienne, Rouen, Lyon, Toulouse. Et ce que nous ont dit ce matin les policiers après cette nuit de violence, je vais vous citer les mots de l'un d'entre eux. On a pris la foudre cette nuit. Parfois, c'était une zone de guerre, c'était quasi insurrectionnel. Certains disent qu'en intensité, c'était pire qu'au moment de 2005. Alors, à voir si ça durera autant qu'en 2005, ça avait duré plusieurs semaines. Ils nous ont dit qu'il y avait une volonté de tuer avec des guet-apens, des cocktails Molotov qui leur étaient envoyés. Les violences étaient tellement intenses et éparpillées dans différents quartiers que certaines unités sont arrivées à court de munitions, tellement elles en ont utilisé des munitions de force intermédiaire, donc des LBD ou des grenades lacrymogènes. Certains ont même craint pour leur vie. Pour vous donner une idée, la BAC de Trappes a dû monter sur le toit du commissariat pour lancer des grenades et des LBD pour défendre le commissariat qui était vraiment pris d'assaut. Pour que vous compreniez, il y a même eu des violences urbaines dans Paris, ce qui est moins courant, hormis lors de la réforme des retraites et de la contestation. Intensité de violences urbaines inédite, m'a dit un policier, que les policiers ont eu du mal à contenir et ils ont même eu des difficultés à reprendre le terrain. Dans les Hauts-de-Seine, les violences urbaines étaient sur tout le département, 110 véhicules incendiés, tellement intenses que plusieurs interventions n'ont pas pu être traitées parce qu'il n'y avait pas assez d'effectifs pour le faire en sécurité. Et donc, par exemple, c'était des caméras dégradées ou des feux de véhicules. L'intervention, parfois, n'était pas possible. En Seine-Saint-Denis, vous avez un policier qui est, à l'heure actuelle, on attend de ses nouvelles, en urgence absolue, touché par un jet de pavé dans l'attaque du commissariat de la Courneuve. Et puis une dernière information, sachez que deux policiers municipaux en Seine-Saint-Denis ont dû faire usage de leur arme administrative, en tirant vers le ciel pour préserver leur vie.
Le problème, c'est, est-ce qu'on risque pas maintenant, tandis que regardez quand même ces images, on voit que c'est en train vraiment de virer à toute autre chose. On aperçoit au loin la foule de la Marche Blanche, semble-t-il, qui est quand même voilà, contenue dans un coin. Et puis, sur cette esplanade, tout près du tribunal, enfin du palais de justice, on voit bien qu'il y a des scènes de bataille rangée maintenant entre policiers et émeutiers, ou en tout cas certains qui sont venus en découdre et qui cherchent clairement l'affrontement. Est-ce que, je vous ai vu faire la moue lorsqu'on évoquait 2005. C'est difficile, évidemment, parce que 2005, ça a duré 3 semaines. Donc, on ne peut pas, pour l'instant, être sur la même échelle. Mais dans les témoignages qui remontent quand même de la part des policiers, beaucoup disent on n'avait jamais vu ça. Alors, en une seule nuit.
Ben en fait, c'est très compliqué. Moi, avec Mouv' Territoire, on travaille beaucoup la question du lien police-justice. On en a police-population. Et donc, on a fait beaucoup d'actions entre des personnes des quartiers et des policiers. Et donc, je suis régulièrement en contact avec eux. Et effectivement, ce qui a été hier, c'était une soirée très, très compliquée. Mais toute proportion gardée, véritablement 2005, c'était beaucoup plus intense. Je crois qu'on a peut-être oublié ce qu'ont été les émeutes de 2005. Et ce qui est compliqué, c'est de se dire pourquoi, 18 ans après, on reconnaît, en tout cas, un épisode qui semble s'acheminer vers 2005. Donc non, je ne crois pas qu'on a connu la même intensité que 2005. Par contre, si on n'est pas en capacité d'apporter des réponses politiques, on y va tout droit.
Alors, juste une précision, c'est les policiers qui...
Oui, non, mais je vous parle également de témoignages de policiers, donc je pense que c'est aussi une question de ressenti.
Chacun, aussi en fonction de son expérience et du département dans lequel il se trouve et l'expérience à laquelle il a été confronté.
Exactement.
Directement. Pour qu'on prenne la mesure, de toute façon, pour ceux qui auraient raté cette séquence de ce qui s'est passé hier, ça a duré très très tard dans la nuit. Oui. Ça a commencé aux alentours de 22-23 heures, Sandra, oui, je pense, sous votre contrôle.
En fait, il y a eu un avant-après minuit, en fait. Voilà, après minuit, on signale très, très que ça a été... Ah oui, toute la nuit en fait, ça a duré toute la nuit et c'est surtout comparé à la nuit précédente, ce qu'on nous signale c'est que c'était, et c'est ce qui a commencé à expliquer le ministre tout à l'heure, c'est que c'était très organisé, structuré, des groupes de 30 à 50 personnes avec vraiment une même méthodologie et des mêmes cibles que sur tous les territoires, donc c'est ça qui interpelle.
Alors regardez, la mise en image, n'est pas exhaustive évidemment, mais pour vous donner une idée de la teneur de la nuit, préparée par nos équipes.
C'est la désolation.
Lorsqu'elle se présente à la mairie de Neuilly-sur-Seine ce matin, Henriette Marteneau, adjointe au maire, est sous le choc.
Et c'est quand même très compliqué, ça nous a fait vraiment verser une larme de manière réelle ce matin, parce que moi je ne m'attendais pas, quand j'ai vu les photos de l'extérieur, je me suis dit c'est juste la façade, et quand je suis arrivée là, j'ai dit mais c'est pas possible quoi.
La totalité de son service dédié au logement a été brûlée. Quasiment rien n'est récupérable. À Besançon, dans le Val d'Oise, c'est la façade d'une école qui a été incendiée. Partout en France, des dizaines de bâtiments publics ont été incendiés ou dégradés. Rien qu'en Île-de-France, près de 1000 feux de voies publiques ont été déclarés. Hier soir, les tensions ont débuté à 21h dans l'Essonne. Plusieurs individus ont incendié un bus, bloquant la circulation toute la nuit. À Dammarie Lellis, un groupe d'individus s'est introduit sur le parking du commissariat de la ville, avant de brûler toute une flotte de véhicules de police. Les forces de l'ordre ont été ciblées dans de nombreuses villes d'Île-de-France par des tirs de mortier. Des scènes de guérilla ont été filmées dans toute la France. Élus et habitants craignent une troisième soirée de violence. En tout, 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés sur tout le territoire.
Merci beaucoup, Rose Amézia, d'être passée sur ce plateau. Si vous voulez nous quitter, on va reprendre le débat et les images. On va retourner, bien sûr, à cette marche et à ce qui se passe en marge de la marche à proprement parler. Ces tensions très vives déjà qui se font jour. Juste après, le journal de Michaël Dorian qui va s'installer, qui va nous rejoindre tout de suite pour les dernières infos.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est une véritable marée humaine qui a défilé dans les rues de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, une marche blanche en hommage à Naël, ce jeune garçon tué mardi après un refus d'obtempérer. On va tout de suite retrouver nos envoyés spéciaux qui suivent le cortège. Bonjour, vous êtes en direct, le cortège qui a démarré dans le calme tout à l'heure et qui arrive désormais à son terme. Décrivez-nous ce qui se passe, comment et l'ambiance autour de vous.
Eh bien écoutez, l'ambiance est radicalement différente avec toute cette après-midi. L'ambiance est extrêmement tendue ici sur l'esplanade finale où effectivement le jeune Naël a perdu la vie mardi dernier. Depuis l'arrivée de cette marche blanche, les jeunes du quartier ont provoqué très rapidement les forces de l'ordre à coups de jets de pavés notamment, de jets de bouteilles. Et ce sont les forces de l'ordre qui ont rapidement répliqué à l'aide de gaz lacrymogène. Les jeunes des quartiers ont mis le feu aux bosquets de cette ville de Nanterre, cette végétation déjà très sèche, attisée par le vent qui souffle ici dans les Hauts-de-Seine, a rapidement fait des flammes ici entre les tours avec les pompiers qui sont actuellement à l'œuvre pour tenter d'éteindre les petits brasiers aux quatre coins de cette esplanade. Ces jeunes qui ne comptent pas en terminer ici, en tous les cas c'est ce que nous ont dit les médiateurs qui nous ont dit que ces jeunes, ils avaient du mal à les tenir. Ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont défilé aujourd'hui dans les rues de Nanterre en hommage à Naël, des personnes touchées à la fois par ce drame, mais aussi certaines avec qui on a pu discuter, qui voulaient manifester contre l'état policier. C'est en tous les cas les mots qu'ils ont employés à notre oreille, des personnes qui voulaient manifester leur mécontentement. Et cette situation qui, à l'instant où je suis en train de vous parler, semble se tarir tranquillement, mais c'est vrai qu'il y a quelques minutes, c'était une esplanade totalement noyée dans les fumées des feux de bosquet et les fumées, effectivement, des bombes lacrymogènes.
Voilà, des jeunes qui ne semblent pas vouloir s'arrêter là. Gérald Darmanin était dans le Nord tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Mont-Saint-Barœul, près de Lille, où la mairie a été incendiée la nuit dernière. Il a promis des renforts de police encore plus importants pour la nuit prochaine. On l'écoute.
Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers et de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion que vous avez vue ce matin. Puisqu'hier, il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5000 en plaque parisienne et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français.
Hier soir, des bâtiments publics et des véhicules de police ont donc été incendiés dans plusieurs communes du pays et notamment à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Vous voyez sur ces images une médiathèque qui a été ravagée par les flammes. Écoutez le témoignage de cette conseillère municipale interrogée tout à l'heure.
Une certaine incompréhension parce qu'on est un service pour le public et que notre but c'est de travailler pour les Nocéens et les Nocéennes. Après voilà, je pense que de toute façon c'était pas forcément nous qui étions visés en tant que médiathèque mais plutôt en tant que lieu municipal. Alors il y a une enquête en cours et pour la plainte, je pense que ce serait une plainte commune pour l'ensemble de la ville de Neuilly-sur-Marne.
Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr. Édition spéciale de 90 minutes info avec Nelly Denac et ses invités.
Merci beaucoup, cher Michaël, avec les toutes dernières images qui nous parviennent de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où cette marche blanche a commencé il y a maintenant 2 heures, mais où, depuis quelques minutes maintenant, la tension s'est nettement accrue aux abords du palais de justice et non loin d'ailleurs de l'endroit où Naël a été tué. Regardez cette image, elle est tellement parlante. Ce pompier au premier plan, ce cordon de police et derrière, au fond, la foule venue pour rendre rendre hommage à la famille et soutenir la famille de Naël et qui est quand même gardée à distance. Mais tout à l'heure, il y a eu quelques éléments perturbateurs qui sont venus. Il y a eu des jets de gaz lacrymogène. Et là, cette charge policière, Sandra, pour tenter de venir à bout de ces éléments agitateurs et qui veulent en découdre, semble-t-il.
Oui, effectivement, la marche blanche est arrivée à son terme. Donc, effectivement, le cortège a commencé à rejoindre son point d'arrivée. Et il y a ces tensions qui sont le fait de certains individus que vous décrivez, notre reporter sur place. Et puis, on vient d'avoir cette information. Au moment de cette manifestation, dans le cortège, des élus se sont fait prendre à partie par des manifestants et ont dû quitter ce cortège et c'est même effectivement aussi difficile parfois pour nos équipes à nous de pouvoir être dans le cortège et rendre compte de la situation, il faut le noter.
On peut aussi noter qu'hier certains élus, on a vu cette vidéo de Carlos Milongo qui s'est fait aussi sortir du quartier Manu Militari qui n'était clairement pas le bienvenu, donc aujourd'hui là on a l'impression qu'on ne fait plus le distinguo et ce mot distinguo est important, William T, parce que dans le reportage qu'on a vu, lorsqu'on évalue l'ampleur des dégâts, on voit qu'on s'en prend à des services essentiels, que sont les écoles, les crèches, le service logement de la ville. Bon, a priori, ça peut quand même rendre service à ceux qui y vivent. Les médiathèques, les voitures municipales de la police. C'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un face-à-face contre celui qu'on désigne de facto comme l'ennemi affiché. Mais on s'en prend aux biens publics, aux matériels, aux voitures. Les voitures qui brûlent, ce sont celles des riverains aussi. C'est là qu'il y a une incompréhension aussi quand on regarde les images.
Moi, je pense qu'il y a une émotion qui est légitime suite au décès du jeune Naël. Ça se manifeste à travers une marche blanche. Mais je pense aussi qu'il y a une grande partie des émeutiers qui font ça, qui utilisent ça comme prétexte pour foutre le bordel en France. Ils foutent le bordel lors des émeutes d'hier, ils viennent foutre le bordel dans la marche blanche à l'heure actuelle, et ils utilisent ça comme prétexte. Quel est leur véritable objectif? À travers le témoignage de recueilli par Sandra Buisson et le témoignage que vous décrivez, en fait, on remarque qu'ils s'attaquent à toutes les autorités de la France. Les élus républicains, les médiathèques, les biens publics. Ils expriment une haine anti-France, et ils utilisent à chaque fois un prétexte, la mort de Naël, un match de foot entre la France et l'Algérie, ou qu'importe en fait. Ils utilisent n'importe quel prétexte pour venir foutre le bordel dans le pays. Et je pense que c'est ça le problème essentiel. C'est qu'à partir du moment où on ne tient pas la communication et on ne tient pas le territoire, certains en profitent pour venir faire des dégradations. Et au final, qui sont les véritables perdants de cette affaire? Les premiers, c'est ceux qui manifestent légitimement leur émotion. C'est-à-dire qu'ils vont être assimilés aux émeutiers. Le deuxième perdant, c'est les habitants de ces quartiers. Parce qu'au final, qui va perdre son logement? Qui va perdre ses biens publics? Qui va perdre les services publics de proximité? Qui va perdre sa médiathèque? Ce sont les habitants des quartiers. Parce que lorsqu'on va regarder la carte des manifestations, vous regardez que ce sont principalement les quartiers dits populaires qui sont ciblés par ça. Et c'est ces personnes qui ont le plus besoin des services publics qui vont perdre le service public. Donc je pense que la première mesure à prendre, c'est de distinguer les personnes qui manifestent leur émotion de manière légitime à travers la famille de Naël, notamment sa mère. Le deuxième point urgent, c'est de pouvoir rétablir l'ordre, la loi et l'ordre. Donc la loi à travers la justice, si par cas le policier, il s'est avéré qu'il a commis une exaction. Et enfin, l'ordre, rétablir l'ordre dans nos rues, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça éternellement.
Vincent de la Morandière, ça devient un peu le défouloir, c'est-à-dire que tout est prétexte, comme il le dit, à mettre le feu.
En fait, effectivement, le feu, quand il commence, personne ne sait comment l'arrêter et personne ne sait s'il va s'arrêter dans un jour, dans 10 jours, dans 15 jours. Et là, on a quand même des signes qui montrent que c'est un embrasement d'une partie de la France qui se fait. Pourquoi ?
Mais en disant ça, pardon que je vous interromps, mais il y a une sorte de fatalisme presque dans votre voix. Personne ne sait comment ça va s'arrêter. Bah si, en fait, ça va s'arrêter avec le maintien de l'ordre et parce que l'autorité de l'État doit prévaloir, non ?
Comme vous l'avez relevé il y a quelques instants, en fait, on s'en prend là en l'espèce au corps constitué. En fait, on s'en prend aux pompiers, on s'en prend aux policiers, on s'en prend à tous les représentants de l'État, on s'en prend aux biens de l'État. Et qui s'en prend à ces corps constitués, c'est ceux qui pensent appartenir probablement à des corps destitués, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas ce qu'ils espèrent, qui ont rien à perdre finalement, et qui vont y aller. Et malheureusement, cette idée-là va être difficile à combattre à court terme, parce qu'en fait, et je vais revenir sur ce point-là, il faut savoir que en France, il y a 900 000 gardes à vue par an. J'aimerais que les 900 000 personnes qui soient retrouvées dans des locaux de commissariat ou de gendarmerie aient envie de défendre des policiers, en disant mais moi je suis passé en commissaire en garde à vue, j'ai vu des policiers et il y en a plein qui ont un souci de la preuve, qui ont un souci.
Attends, mais peut-être que si sur ces 900 000 ceux qui étaient enfin j'espère quand même qu'une écrasante majorité n'avait pas de raison d'y aller à moins d'avoir commis un méfait auparavant.
Ça, c'est statistiquement, en fait, il y a 6% de relax en France. Donc, en fait, sur les 500 000 personnes qui sont condamnées au tribunal correctionnel chaque année.
Mais est-ce que vous voulez dire que toutes les gardes à vue, les 900 000, ça passe mal ?
Ce que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que par an, vous avez près d'un million de personnes qui fréquentent la police dans un cadre judiciaire. Vous avez 500 000 personnes qui se retrouvent devant la justice.
Mais le problème, c'est pas qu'il y ait 900 000 gardes à vue, c'est qu'il y ait 900 000 personnes qui commettent des infractions.
Éventuellement.
Ça devrait pas, c'est bah oui. Et la question, ça devrait pas être autant, hein, d'ailleurs.
Pourquoi tous ces gens-là, qui sont des justiciables, qui ont eu affaire de près à la justice et à la police, sont peut-être pas dans une attitude de protection de la police ou dans une attitude de protection de la paix? C'est une question que je pose simplement.
Alors, on va retourner à Nanterre avec une de nos équipes parce que, a priori, les pompiers sont appelés en intervention et entrent dans un bâtiment. Vous êtes non loin, j'imagine.
Oui, effectivement, on est sur la place Nelson Mandela, c'est le lieu où s'est terminée donc cette marche blanche. Et vous le voyez sur nos images, les pompiers de Paris sont en train d'intervenir à l'intérieur d'un bâtiment situé sur cette place Nelson Mandela. Vous le voyez, en fait, les bouts de bois qui sont en train de fumer ont été évacués du bâtiment par les pompiers. Ils sont en train d'intervenir à l'intérieur. On a pu entendre l'alarme d'urgence. Également, vous le voyez, de nombreux feux, notamment cette poubelle. Il y a énormément de feux qui sont allumés à cette place, aux alentours de cette place Nelson Mandela. On peut... Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont intervenues. De nombreux débris sur la route avec des gravats, des pierres, mais aussi des bouteilles de verre. Donc vous voyez, la situation est très tendue sur cette place Nelson Mandela. Les forces de l'ordre ont repris le contrôle sur cette place. Pour l'instant, on est dans un calme relatif, mais il y a énormément de débuts d'incendie et énormément de tensions.
On voit bien sur cette esplanade assez vaste, hein, d'ailleurs, que des débris conséquents sont déjà sur le sol, jonchent déjà le sol. Bonjour Philippe Cholouz, vous êtes expert du maintien de l'ordre. Merci de nous rejoindre en direct sur l'antenne de CNews cet après-midi. Qu'est-ce que vous vous dites dans la veine de ce qu'on disait en plateau à l'instant ? Force à la loi, comment on fait pour en venir à bout maintenant ?
Alors, en premier lieu, comme tous vos intervenants, je crois que malheureusement, on est poussé par l'actualité alors que ça devrait être le temps du deuil et du recueillement. Donc, mes pensées vont bien évidemment au jeune qui a été rappelé à Dieu, à sa famille, et puis aux policiers qui sont mis en examen, qui sont dans l'épreuve. Voilà. Cela étant posé, malheureusement, on n'a plus ce temps-là dans la société actuelle. Je crois qu'effectivement, force doit rester à la loi et qu'on est dans un rapport de force qui est assez brutal, mais où il est important de déployer des effectifs importants pour reprendre la main et pour éviter que cela ne dégénère. Je crois que la situation actuelle, il faut bien la mesurer. On est vraiment à la croisée des chemins en termes d'acceptation de l'autorité de l'État. Mais avec des enjeux qui sont très très importants. Voilà. On en arrive, je suis désolé de le dire, hein, ce que je veux dire ne va peut-être pas être très bien perçu, mais on en arrive à des logiques de territoire, à des logiques mimétiques, à des logiques où d'un côté ou de l'autre, il y a des rapports maintenant qui sont ethniques. Voilà, la France est en grand danger de ce point de vue-là, et je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait un ordre juste qui revienne. Et le ministre a raison de dire qu'il va déployer d'importants effectifs pour reprendre la main. Il faut reprendre la main et il faut redonner à la justice le premier rôle.
Philippe Cholouz, le fait effectivement qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes déployés sur l'ensemble du territoire ce soir et qu'on appelle à la rescousse la BRI, le GIGN, le RAID, on dit engager en réserve. C'est-à-dire que si les choses venaient à dégénérer et qu'il y avait des problèmes d'effectifs ou de surnombre de la part des émeutiers, ils seraient de toute façon convoqués. Pour vous, c'est dire qu'on craint vraiment quelque chose d'une toute autre nature encore ?
Bien évidemment, le GIGN et le RAID ne sont pas des unités de maintien de l'ordre, ce sont des unités non spécialisées. Alors il y a deux problématiques, il y a le fait, on le connaît, on l'a vu pendant les Gilets jaunes, c'est un des problèmes majeurs qu'on a, c'est l'emploi d'unités non spécialisées qui est très dangereuse parce que le maintien de l'ordre c'est le métier des gendarmes mobiles, c'est le métier des compagnies républicaines de sécurité, et c'est pas le métier d'unité non spécialisée qui évidemment donne lieu à des problèmes de professionnalisme. Mais le GIGN et le RAID sont sortis parce qu'on craint bien autre chose. Il y a dans les banlieues des armes automatiques, il y a qui évidemment sont principalement au lieu de gens qui trafiquent, donc qui n'ont pas intérêt au désordre. Mais les rapports sont tels actuellement que le risque n'est pas à exclure. Donc bien évidemment, il faut déployer ces unités d'intervention spécialisées pour éviter le pire. On ne peut pas ne pas les prévenir.
J'ai une dernière question pour vous. Que pensez-vous, que répondez-vous plutôt à ceux qui sont déjà prompts dans la classe politique, on en a entendu un certain nombre dès ce matin, à réclamer l'état d'urgence? Est-ce que c'est adéquat dans les temps que nous traversons? Est-ce que c'est prématuré? Tandis que j'aimerais juste qu'on voit cette image d'une charge policière contre certains émeutiers là, qui leur font face. Je reviens vers vous dans un instant, Philippe Chelous, mais on va rester avec notre équipe à Nanterre, parce qu'on sent bien maintenant que voilà, les provocations sont pratiquement en frontale. On est à quelques mètres de distance les uns des autres.
Oui, Nelly, je ne sais pas si vous m'entendez, mais c'est effectivement une situation très tendue ici sur l'esplanade. Nous sommes vraiment à quelques mètres de là où a lieu l'accident, où ce jeune homme de 17 ans a été tué. Et ces jeunes, eh bien, continuent de vouloir en découdre avec les forces de l'ordre qui tentent de quadriller le quartier avec difficulté. Je vais demander à mon collègue, mon caméraman, de bien vouloir tourner à gauche. Regardez, ce sont différents feux qui ont été allumés un petit peu partout aux alentours de cette esplanade avec des pompiers qui sont débordés. Il y a 3, 4, 5 même camions de pompiers qui tournent, qui vont de feu en feu. Mais à peine un feu est circonscrit qu'un autre est allumé par ces jeunes qui veulent continuer ces affrontements avec les forces de l'ordre qui répliquent avec des gaz lacrymogènes, des tirs de mortier sont tirés du côté des jeunes, comme c'est le cas actuellement sur ces images, des tirs d'artifice en direction des forces de l'ordre avec évidemment des bouteilles et des pavés qui continuent. Ici, la situation est loin d'être terminée, il semblerait même que ces jeunes soient décidés à en découdre encore une fois toute la nuit, pour une troisième nuit consécutive. C'est en tous les cas la crainte que nous ont dit les médiateurs de la ville qui font le lien entre les autorités et ces jeunes qui ont habituellement un rapport pacifiste avec ces jeunes, qui arrivent à garder le dialogue et à les raisonner. Mais ces médiateurs nous l'ont dit, ces jeunes sont intenables, nous n'arrivons plus à les tenir avec, encore une fois, vous le voyez, ces tirs de mortier et de feux d'artifice en direction des forces de l'ordre.
Merci beaucoup, on reste ensemble bien sûr. J'aimerais reposer cette question à Philippe Chelous avant de vous laisser partir sur l'état d'urgence que beaucoup ont réclamé, appelé de leur vœu dès ce matin en voyant l'ampleur des dégâts de la nuit. Est-ce que c'est prématuré? Est-ce qu'on risque d'y venir si les choses venaient à dégénérer? On se souvient, je crois, en 2005 que ça avait été déclenché, décrété au bout de 3 semaines. Hein. On avait attendu très très longtemps à l'époque. Qu'en pensez-vous, Philippe Chelous?
Je crois que l'état d'urgence est fait pour ça. Alors, bien évidemment, là, actuellement, c'est peut-être un peu prématuré, puisque ça fait peu de temps, mais effectivement, si la nuit qui vient venait à être en proie à des troubles importants à l'ordre public, je pense qu'il faudra le décréter. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les dégâts sont considérables. Et que les dégâts, si vous voulez, c'est une fois de plus, c'est vous, c'est nous, c'est les citoyens qui vont le payer avec leurs impôts. Donc on peut pas laisser faire ça pendant des semaines. Donc je crois qu'effectivement, l'état d'urgence est exactement prévu pour ça. C'est un outil législatif qu'il convient d'utiliser en pareil cas.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. La liaison est un petit peu plus chaotique maintenant, mais voilà, l'image reste là. William Tay, revenons tout à l'heure à ce que soulevait comme... parce qu'on parle des moyens, on parle du saccage, on parle de ce que ça va coûter. En effet, hein, déjà un abribus, c'est plusieurs milliers d'euros. Alors vous comprenez bien que vu ce qui s'est passé hier, on en a sans doute pour plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'ores et déjà à reconstruire. On parlait des moyens. Tous les moyens qui ont manqué, soi-disant cruellement, pour les banlieues, pour les quartiers. Est-ce que c'est ça le nœud du problème?
Non, je ne pense pas, parce qu'on a, depuis les politiques de la ville lancées par Jean-Louis Borloo, on a investi, je crois, entre 120 et 150 milliards d'euros cumulés. Donc, des milliards d'euros ont été dépensés. Si vous prenez la comparaison, notamment sur plusieurs paramètres, l'argent qui a été investi dans les banlieues est bien supérieur sur l'argent qui a été investi dans les territoires ruraux. C'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est que souvent... l'excuse qui est donnée, c'est que la criminalité vient à cause de l'origine sociale. C'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous êtes tendance à une certaine criminalité. Je ne pense pas. Je vais prendre un exemple, la Seine-Saint-Denis, en termes de PIB par habitant, est le 12e ou le 15e département le plus riche de France. Mm-hmm. Pourtant, vous avez des départements qui sont beaucoup plus pauvres, comme la Creuse, ou dans ce qu'on appelle la diagonale de vide, auxquels vous n'avez pas un tel niveau de criminalité, vous n'avez pas des émeutes urbaines à longueur de journée lorsque vous avez un fait divers qui encourage à ce type d'activité. Donc la raison des moyens et de l'origine sociale ne suffit pas. Il y a d'autres paramètres qui doivent être pris en cause. Lorsque vous regardez les témoignages qui ont été pris par les policiers, les biens qui ont été visés, et à chaque fois les endroits qui sont cités et qui sont attaqués, vous remarquez qu'il y a un point commun, c'est que ce sont des représentants de l'État français, à travers les élus, à travers les biens publics, à travers les différentes manifestations. Donc les personnes qui font des émeutes, je ne sais même pas s'ils sont intéressés véritablement par Naël. Je pense qu'ils sont intéressés par foutre le bordel dans le pays, et Gérald Darmanin a raison de parler de professionnels du désordre. L'autre paramètre qu'on a en compte, c'est comment faire pour récupérer la main. Est-ce qu'on active l'état d'urgence dès maintenant ou est-ce que pour l'instant, ça va s'arrêter dans les 2-3 jours à venir? Si par cas, l'exécutif intervient et utilise l'état d'urgence maintenant, il considère que ça va être un conflit qui est long. Or, il est peut-être possible, comme étant une présence policière importante, les personnes ne sortent pas parce qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup plus de risques à sortir ce soir qu'il y a beaucoup plus de risques par rapport à hier soir. Je pense que la question essentielle aujourd'hui, c'est la question du contrôle et de la doctrine d'intervention des forces de l'ordre. La première, c'est que si par cas vous avez beaucoup de forces de l'ordre qui sont présentes sur le territoire, les autres personnes peuvent ne pas être incitées dans la mesure où ils attaquent de manière coordonnée et souvent en supériorité numérique, à 10 contre 1, voire plus. L'autre paramètre, c'est quelle intervention et quelle doctrine des forces de l'ordre. Le point essentiel, c'est qu'avec ce qui s'est passé mardi, les forces de l'ordre ne peuvent pas être en contact, donc ils peuvent être uniquement en défensif. Donc pour l'instant, d'ici ce week-end, on peut uniquement mettre beaucoup de forces de l'ordre pour pouvoir contrôler le territoire, mais pas forcément chasser et attraper les émeutiers.
C'est vrai qu'on peut craindre quand même, Sandra, et même si la réponse ne peut pas être que policière, hein, attention, eux, ils sont là aussi pour faire leur travail, on peut craindre aussi une forme de frilosité. Vu le contexte des forces de l'ordre qui sont un peu sur des charbons ardents et qui vont y aller à tâtons, ça peut aussi entraver leur travail, le fait de se contenir absolument.
Alors, déjà, nous, ce qui nous remonte, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre de se contenir. Il y avait les consignes, c'était de ne pas créer de suraccident s'il y avait une intervention. Il n'y a pas d'interdiction d'interpellation et d'aller au contact, puisqu'on est à plus de 180 interpellations en tout au niveau national. En revanche, il y aura une présence en surnombre ce soir, bien sûr, par rapport à hier. Et moi, les policiers, j'ai discuté avec un policier ce matin qui était dans le Val-de-Marne. Je lui ai demandé s'il avait eu peur à un moment, parce qu'il me disait qu'à certains moments, certains avaient craint pour leur vie, mais pas sur le vif. Sur le vif, il me dit on y va, c'est notre boulot, on y va. Mais a posteriori, on se dit quand même, ça aurait pu être. Un résultat différent. Et vous disiez effectivement les forces de l'ordre, est-ce qu'elles vont rétablir l'ordre? En fait, les forces de l'ordre, elles font leur travail, c'est-à-dire qu'elles gèrent les conséquences d'une situation, elles gèrent les conséquences d'une colère, elles gèrent, comme pour les gilets jaunes, les conséquences d'une surtension sociale et économique. Leur travail, c'est de rétablir l'ordre, mais elles n'effaceront pas la colère. La colère, il faut voir quelles sont les causes qui l'ont générée. Et là, c'est le politique qui doit s'en occuper.
Je vous propose d'écouter ce policier du Val-de-Marne auquel vous faites référence. On a son témoignage.
Ça s'est déclenché un peu partout sur le département en même temps avec les mêmes missions, et c'est à savoir beaucoup de points de barrières de feu qui bloquaient et scindaient les circulations de véhicules et qui étaient vraiment faites dans le but de nous attirer et nous prendre pour cible. C'est vraiment des scènes de chaos. Totalement de chaos de voir et d'entendre les pillages de commerce à la radio, d'entendre que les commissariats prennent feu, c'est vraiment et tout ça en même temps, on se dit là on a passé un cap, on est monté à Fresnes, à la prison de Fresnes, parce que c'est que ça touche quand même vraiment un établissement important et on nous demande de d'y aller puisque les individus en fait se préparent avec des jerrycans d'essence. Donc là on se dit quand même ça va loin, et arriver sur place bien sûr on a des feux feux de poubelle, feux d'encombrant et des tirs de mortier parce que les individus voulaient rentrer à l'intérieur de la prison de Fresnes. C'est vraiment une volonté réelle de tuer, parce que quand on a les cocktails Molotov qui tombent à quelques mètres, on se dit c'est C'est fait sciemment, c'est visé et c'est préparé en fait. Et étant donné qu'il y a un moment donné dans la nuit, on a été en manque de munitions, on est obligé de partir sur plusieurs missions en même temps. On s'est retrouvé des fois même à battre en retraite parce qu'on essuyait des tirs vraiment vraiment intenses et puissants, et les personnes face à nous avancer, donc pas le choix que de reculer. Et il y a un tel niveau de déchaînement de violence et d'intensité de la puissance des tirs et des moyens utilisés, on a franchi vraiment un cap dans la violence.
Voilà, témoignage assez saisissant quand même. Ce qu'il nous dit fait un peu froid dans le dos, ça nous glace le sang, faut le dire quand même. Tandis que vous voyez, il y a encore eu une montée en puissance, malheureusement, des affrontements et des exactions à Nanterre. Vous avez vu sans doute il y a quelques secondes à peine cette voiture en feu devant pratiquement les policiers qui sont là en faction et qui tentent de contenir tant bien que mal ce qui est en train de se passer. Franchement, personne, Vincent de la Morandière, n'est prêt à vivre ça, à subir ça trop longtemps. Et en premier lieu, les personnes qui vivent dans ces quartiers. Ce qui frappe quand même avec ce qu'on a vu hier, c'est qu'on parle souvent de banlieues, de quartiers difficiles, de cités difficiles. Là, ça allait bien au-delà. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans des endroits sensibles qui sont connus pour tel ou tel trafic, tel ou tel affrontement. Là, on est vraiment... On a étendu le spectre. C'est-à-dire que dans les Hauts-de-Seine, quasiment aucune commune n'est indemne, quoi. C'est ça qui est très frappant et qui fait un peu peur quand même pour la suite.
Effectivement, vous parliez d'un critère pour voir de la pauvreté sociale. Il y a un vrai critère qui est compliqué, c'est le critère de l'ascenseur social. Mais il y a plein de gens qui n'ont plus d'espoir. Et en matière judiciaire, nous on les voit au quotidien, il y a des gens qui n'y croient plus, qui ne croient plus pouvoir réussir dans l'économie réelle, qui ne croient évidemment pas pouvoir réussir dans l'économie numérique, qui est l'économie qui est supérieure, qui sont désespérés, qui n'ont plus rien à perdre. Et malheureusement, je pense que c'est une société qui crée beaucoup de tensions et des gens très inflammables. Il suffit de prendre la route, en fait, pour s'apercevoir qu'on est avec des gens inflammables. Il suffit de conduire pour savoir que les gens s'énervent en quelques secondes. Et c'est vrai que ça, cette question-là, elle dépasse très largement le malheureusement...
Donc, il y a une frustration.
Il y a une frustration qui est constante. Il y a une incapacité à gérer des émotions. Il y a une absence, aucune connaissance de la gestion des émotions, de la colère, de la frustration chez les justiciables. C'est d'ailleurs la source de beaucoup de problèmes en droit pénal, pour être vrai, en plus des conditions sociales. On est vraiment dans la justice pénale et au cœur de la justice des gens frustrés, en fait, qui sont incapables de réussir et qui voient des difficultés au quotidien. Et la société a beaucoup de mal à proposer des réponses concrètes et durables. Elles sont éducatives, elles sont aussi de l'ordre de la prison, c'est vrai. Les deux sont nécessaires, il faut l'éducatif et le carcéral. Il faut une réponse ferme et il faut aussi une réponse qui rétablit un espoir.
Qui procure un peu d'espoir pour la vie.
C'est certain, sinon ça ne marchera pas.
Retour à Nanterre, en tout cas, l'actualité du moment, c'est encore cette scène... On a aperçu trop souvent cette nuit, hein. On a vu ces images tourner un peu partout. Mais là, ça se passe en direct à Nanterre, à l'issue de la marche blanche consacrée à Naël. Et on voit voilà, que cette zone a été complètement dépeuplée des gens qui manifestaient il y a très peu de temps encore.
Oui, effectivement, ces images que vous voyez en direct se déroulent près de la place Nelson Mandela. Et vous savez, Nanterre, c'est une ville qui est, dont le quartier, un quartier très célèbre de Paris, c'est celui de la Défense, puisque c'est un quartier d'affaires. Et ces images que vous voyez en direct ont lieu dans un quartier à proximité des tours de la Défense. C'est d'ailleurs une célèbre banque et assurance où ont lieu ces images. Vous voyez quatre voitures qui sont en feu. Les CRS sont en train de progresser dans la rue pour essayer d'empêcher les éléments radicaux d'envenimer la situation. Donc vous voyez, c'est très très tendu, ça se déporte énormément, les forces de l'ordre sont en nombre pour essayer de maîtriser la situation, mais vous voyez énormément de voitures brûlées. Ce sont des images qu'on a vues il n'y a pas plus tard que tout.
Alors, je ne sais pas si la ligne est encore praticable, mais si, voilà. Y a combien de personnes là qui s'affrontent aux forces de l'ordre? Il y en a encore qui sont dans les rues là à vouloir se livrer à un affrontement direct, ou bien c'est juste des voitures en feu et ils se sont repliés?
Alors, on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris, alors dans les proportions que vous pouvez constater à l'image, mais les personnes qui enflamment ces voitures et qui défient les forces de l'ordre sont très très mobiles et donc courent dans les rues de Nanterre. Ce sont pour la plupart des habitants de Nanterre, donc ils connaissent très bien les rues de Nanterre. Les forces de l'ordre essaient de maîtriser la situation. Ils essaient aussi notamment de protéger l'arrivée des pompiers pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Tout à l'heure, les pompiers ont dû intervenir dans des bureaux. Je vous le disais, on est près du quartier de la Défense parce que des personnes qui participaient à cette marche blanche ont essayé de mettre le feu à ces bureaux. Donc on joue un petit peu au jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire qu'on allume des feux quelque part, ensuite on va à un autre endroit pour allumer un autre feu. Il y a plusieurs points de feu dans cette ville, vous le voyez. Là, les pompiers sont en train d'intervenir et les forces de l'ordre sont en train de les protéger parce qu'on a vu aussi des camions de pompiers qui étaient caillassés lors des émeutes. Alors, on ne sait pas si ce caillassage date d'hier ou d'aujourd'hui, mais les camions de pompiers sont eux aussi pris à partie par les habitants de Nanterre. Pour l'instant, vous le voyez, donc les CRS sont en train de sécuriser les pompiers pour qu'ils puissent agir en sécurité.
Ouais, c'est une scène devenue malheureusement récurrente, hein, que les pompiers aussi soient pris à partie, parce qu'ils représentent aussi avec uniforme une forme d'autorité qui est contestée, qui est détestée même. On peut presque utiliser ce mot. Quelle année noire quand même pour les policiers, Sandra.
Et juste pour préciser, ouais. Donc les incendies, c'est effectivement pour détruire, pour dégrader, mais c'est aussi surtout pour amener des représentants de l'État au contact.
C'est comme un appart.
C'est ce que disent les policiers. Ils nous ont dit cette nuit, c'était des guet-apens, c'est-à-dire qu'ils allumaient et dès que les policiers intervenaient, effectivement, ils les prenaient à partie.
Donc une année compliquée, beaucoup de manifestations.
Une année compliquée, plusieurs années compliquées, oui, parce qu'on sortait des gilets jaunes. Oui,
et donc on va dire que ça a été compliqué,
les retraites. Les retraites avec ces violences urbaines dans Paris cette fois-ci, parce que c'était vraiment ces cortèges sauvages dans la rue avec ces incendies à répétition. Peut-être moins de contact, les assaillants allaient peut-être moins au contact des forces de l'ordre, alors que là, effectivement, cette nuit, le but, c'était effectivement d'aller s'en prendre aux forces de l'ordre. Il va falloir voir combien de temps ça dure. C'est ce qui est... Les forces mobiles, c'est leur travail de gérer l'ordre et de le rétablir lorsque celui-ci est menacé. Moi, je discutais au moment des retraites de la manifestation contre les retraites avec un CRS qui me disait, écoutez, moi, c'est mon travail. Le problème, effectivement, c'est quand ça devient trop récurrent. Là, il faut faire tourner les équipes, etc. Et ça devenait compliqué parce que eux, le matin, ils débloquaient les sites bloqués. Puis l'après-midi, il y avait la manif. Et puis le soir, les suites de la manif avec les violences urbaines et les cortèges sauvages. Donc là, la question, ça va être, pendant combien de temps ça va durer, parce que vous l'avez vu là, ça commence vers minuit. Hier soir, ça a commencé vers minuit, ça s'étire dans la nuit, mais là on a besoin de renforts. Certains policiers nous remontent qu'on commence à annuler des congés, à les reporter,
il va falloir voir combien de temps ils vont être échéances sportives majeures.
Après, il y a
aussi
les échéances sportives en fin d'année, ouais, voilà. Ouais, c'est compliqué.
Ils sont épuisés, les policiers.
Vous avez un peu de compassion pour ces policiers? Qui a envie d'être policier aujourd'hui?
En fait, il faut quand même voir clairement.
Et qui va nous protéger aussi, parce qu'on a besoin quand même d'être protégé en tant que citoyen.
Mais tout à fait. En fait, les policiers en plus sont assez épuisés par ces incidents entre guillemets à répétition. Ils doivent assurer en fait beaucoup beaucoup en plus du travail habituel. Donc ça, c'est un élément qui peut aussi favoriser des tensions. Là, c'est sûr qu'il faut que les services de police aient des moments un peu pour respirer. Sinon, il y aura plus de problèmes encore. Il y a un effet boule de neige qu'on peut voir très clairement.
Il y a une détestation aujourd'hui clairement de l'institution, mais aussi de celui qui porte l'uniforme. C'est-à-dire qu'il n'est plus des vôtres s'il a décidé, même malgré le fait qu'il ait sa famille, s'il a décidé d'endosser l'uniforme, William T.
Moi, je pense...
Elle est là, la fracture.
Oui, mais il faut bien cibler. Parce que je pense qu'auprès d'une très très grande large majorité de la population,
ceux qui veulent... Ouais,
auprès des émeutiers, de toute façon... Voilà, moi je pense véritablement que de toute façon, si c'est pour aller à Sainte-Soline, si c'est pour trouver n'importe quel prétexte, ils iront à la castagne contre les forces de l'ordre. Ça devient un sport national pour eux, ça devient quasiment une profession. Ils veulent faire ça parce que de toute façon, ça devient pour eux leur manifestation, une sorte de hobby. C'est comme ça qu'ils manifestent leur idéologie. C'est leur exutoire, voilà. Je pense que de toute façon, qu'importe le motif, ils y seraient allés, ils utilisent n'importe quel motif pour le faire. Vous prenez des manifestations écologiques, des manifestations sportives, des faits divers tragiques comme ce qui s'est passé mardi. Ils utilisent ça pour attaquer les forces de l'ordre ou toutes les autres forces. Il y a un autre point, par contre, au-delà des émeutiers, c'est ceux qui habitent dans les quartiers, auxquels vous avez des quartiers de plus en plus difficiles, ce qu'on appelle les quartiers perdus de la République, auxquels, de toute façon, il y a toujours une tension croissante avec les forces de l'ordre, mais non pas parce que ce sont les forces de l'ordre, c'est uniquement pour une question de contrôle du territoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir ces deux phénomènes-là qui sont cumulés. Le fait que les émeutiers veulent faire des émeutes contre les forces de l'ordre, et le deuxième point, c'est qu'ils veulent contrôler leur territoire et manifester leur contrôle du territoire. C'est pour ça que ça attaque contre les commissariats, contre les différents biens publics, etc. Parce que de toute façon, moins la force publique est présente, moins l'État est présent, plus il possède le territoire. Et enfin, il y a la question qui se pose véritablement, c'est comment, en termes de timing et de durée, on fait pour pouvoir reprendre le contrôle du territoire national à tous les niveaux pour faire appliquer la loi et l'ordre. Il y a une problème. Moi, je pense que c'est vraiment une question de timing sur cette affaire, parce que le DSNL est encore présent, donc du coup, les moyens logistiques d'intervention des forces de l'ordre est limité, surtout d'un point de vue politique. Si par cas il y a une bavure, il y a un accident, est-ce que Darmanin et Macron vont pas lâcher les forces de l'ordre, comme ce qui a pu être assimilé mercredi ou mardi lorsqu'on a vu les images, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais Emmanuel Macron
sur le fait qu'il soit sur la retenue, une extrême retenue.
Voilà, moi je pense qu'en tout cas il y a une difficulté pour les capitaines et pour les commandants, etc. Parce que pour eux c'est assez compliqué, parce qu'ils savent que si par cas il y a une bavure, il y a un excès, bah c'est eux qui vont prendre et c'est pas le pouvoir politique qui va les protéger. Donc il y a une ligne qui doit être claire vis-à-vis du pouvoir politique, notamment du président de la République, de la première ministre et du ministre de l'Intérieur, c'est quelle doctrine? Est-ce que c'est la ligne Darmanin ou est-ce que c'est la ligne Borne? Est-ce que c'est une ligne sécuritaire et d'arrêter les professionnels du désordre, ou est-ce que c'est davantage une ligne de compassion? Vous pouvez pas tenir les deux en même temps, et c'est là la limite du en même temps macronien. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez comprendre qu'il y a une manifestation d'émotion à l'égard de la famille de Naël. Par contre, la priorité actuelle, c'est le rétablissement de l'ordre, donc le soutien aux policiers.
J'aimerais qu'on appelle Driss Etazaoui. Bonjour, vous êtes vice-président de l'association des maires villes et banlieues. J'imagine que vous en entendez depuis quelques minutes. Hein. J'imagine que vous avez beaucoup souffert des dégâts. Hier, on a parlé de nombreuses communes, de nombreux hôtels de ville qui ont été saccagés. Quelle est l'ampleur des dégâts sur les biens publics aujourd'hui?
Écoutez, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure, et je ne manquerai pas de revenir vers vous concernant des expressions que j'ai entendues, telles que les quartiers perdus de la République. C'est là, je crois, jeter l'opprobre sur les 6 millions d'habitants qui sont domiciliés sur les 1214 quartiers de la politique de la ville en France. Et c'est une offense à leur endroit que de penser que ces quartiers-là sont des quartiers perdus de la République du fait qu'une poignée d'individus, qu'une poignée de voyous se comportent mal. Pour en revenir à votre question, vous imaginez bien que ce matin, les élus locaux, mais aussi les habitants, se sont levés avec la gueule de bois. À Évreux, c'est l'hôtel d'agglomération qui a été assiégé. Ce sont deux écoles élémentaires qui ont été pris pour cible. C'est une quinzaine de véhicules qui ont été vandalisés, brûlés. Et un sentiment anxiogène et un sentiment d'insécurité qui règne sur le quartier. Ce qui est vrai à Évreux est vrai dans beaucoup d'autres communes de la région de l'Île-de-France, mais également sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et pour discuter avec le maire de Grigny, le maire de Champigny-Vigne, le maire d'Allonnes ce matin, et avoir une réunion de crise avec les uns et les autres, nous autres élus locaux sommes quelque peu démunis face à cette flambée de violence. Le message qui est nôtre aujourd'hui, nous autres élus locaux, en proximité avec nos habitants ancrés sur nos territoires, le premier message, c'est celui de l'apaisement, naturellement, et de dire à l'ensemble de cette jeunesse, parce que cette jeunesse sur les quartiers, c'est 20% de la population française. Autrement dit, l'avenir du pays, il passe aussi à travers ces territoires. Et donc le premier message, c'est celui de l'apaisement, naturellement, parce qu'il se tire une balle dans le pied. Demain, la voiture qui est brûlée, c'est un père de famille qui ne pourra pas aller au travail. Demain, une école qui est abîmée, ce sont des enfants qui ne pourront pas aller à l'école. Et donc c'est leur cadre de vie, c'est leurs équipements qu'ils mettent en difficulté. Et donc on tire ces quartiers-là vers le bas.
Monsieur Etazaoui, on a bien compris qu'il fallait que ça aille bien sûr au-delà de la réponse policière, qu'il fallait que tout le monde reprenne un petit peu, redescende un petit peu. Comment, selon vous, on refait le liant, est-ce qu'il y a aujourd'hui un seul pays où il y a des archipels qui ne vont jamais se retrouver? Comment on fait pour je sais que vous réfutez le terme de territoire perdu, mais celui d'archipel, est-ce que vous le concevez ou pas du tout?
Écoutez, au regard de la tragédie qui vient de se passer à Nanterre, il va falloir recoller les morceaux. Et vous imaginez que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens également, humains, matériels et financiers, qui ont été consentis sur ces territoires. Tout le travail de réconciliation entre la police et la population, vous voyez, il y a 3 semaines, nous avons invité l'association Raid Aventure sur le territoire d'Evreux. Raid Aventure, c'est une association formidable d'une 20aine de policiers qui, de façon bénévole, eh bien, ont pignon sur rue, sur l'un de nos quartiers, et travaillent avec la jeunesse des quartiers de la politique de la ville de manière à tisser du lien et à retrouver de la confiance. Eh bien ça, on n'aurait pas pu imaginer le faire demain, après-demain ou la semaine d'après, puisqu'aujourd'hui, il est clair que la confiance est rompue et que la défiance est de plus en plus importante. Merde. Concernant l'archipélisation dont vous parlez, aujourd'hui, un sparadrap sur une jambe de bois ne fera pas l'affaire. On attend des annonces du président de la République. Il devait les faire à Marseille. Il ne les a pas fait. Il devait y avoir un conseil interministériel des villes demain à Champigny-les-Vignes. Madame le maire a juste raison, n'a pas souhaité que ce conseil, avec la première ministre, se tienne à Champigny-les-Vignes du fait du contexte insécuritaire actuel. C'est pas qu'une question de moyens, c'est aussi une question de considération. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait nation pour cette jeune-là ? Aujourd'hui, comment est-ce qu'on retrouve le goût de faire République ensemble ? Comment leur donner le sentiment, justement, de ne pas être des enfants perdus de la République, mais plutôt d'être des enfants de la République et non pas d'être, de se sentir appartenir à un territoire, à un quartier, mais bien de se sentir appartenir à la nation. Vous voyez, c'est aussi une question de considération. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Et pour ce faire, eh bien, il faut changer de logiciel. Il faut changer de paradigme. Il faut absolument qu'on travaille sur l'égalité des chances et sur la promesse républicaine, partout et pour tous.
Vous restez avec nous. J'ai encore 2 ou 3 questions quand même à vous poser, notamment ce qui concerne l'exécutif, mais on va s'attacher à ces images parce que il y a des moments de reflux et puis d'autres où il y a des charges policières. Ça a été le cas il y a quelques instants. Vous l'avez peut-être aperçu en direct de Nanterre. Je ne sais pas si une de nos équipes peut nous les commenter, mais on est non loin de cette esplanade du palais de justice avec toujours ce jeu du chat et de la souris qui s'instaure entre policiers et émeutiers.
Effectivement, Nelly, comme je vous le disais tout à l'heure, on est au jeu du chat et de la souris. Donc les personnes qui ont participé à cette marche blanche sont très très mobiles. Les CRS essaient de sécuriser rue par rue les différentes artères de cette ville de Nanterre. On peut apercevoir d'où nous sommes, l'Arche de la Défense. Je ne sais pas si vous la voyez sur l'image. Donc voilà comment dans quel quartier nous évoluons. Les forces de l'ordre ont l'air de repousser les personnes qui ont manifesté vers le quartier Pablo Picasso. Comme vous le voyez maintenant à l'image, les manifestants sont encore très très nombreux et ils sont repoussés par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. De nombreuses voitures sont brûlées, il y avait énormément de départs d'incendie, mais également du mobilier urbain qui a été détérioré.
Merci beaucoup. Vincent de la Morandière, avant de retourner voir Driss et Tazaoui, est-ce que le péché originel, le péché originel de ce problème, ça a été aussi, là je parle de l'exécutif actuel, d'avoir un peu balayé d'un revers de la main le plan banlieue qui a été soumis par un certain Jean-Louis Borloo à l'époque et qu'on a beaucoup mobilisé pour finalement lui dire « Oh ben non, ça ne nous intéresse pas, votre truc, en gros, on n'en est plus à ça. »
Une des définitions du peuple, c'est celui sur qui s'exerce le pouvoir et qui ne participe pas à l'exercice du pouvoir. Et en fait, concrètement, le pouvoir exécutif, c'est un tout petit pouvoir. Et ils peuvent proposer des choses, ils font des mesures, ils font du discours, ils proposent des idées. Ça peut donner une impulsion. Mais le concret du pouvoir, il a peut-être un autre visage. Et en France, dans un système démocratique, le peuple peut participer véritablement à l'exercice des pouvoirs, pas simplement au moment des élections, si vous voulez. Et là, je...
Il n'y a pas eu beaucoup de référendums sur quoi que ce soit.
Hein. C'est vrai.
Ça fait 18 ans qu'on attend un référendum.
Mais je ne parle pas du référendum. Je parle des choix de la consommation. Je parle des choix en matière... tous les choix qui font la vie quotidienne, qui font la vie, les choix économiques, en fait, de la vie économique. C'est beaucoup plus important. Et ça, il y a une capacité de prendre le pouvoir. Et pour tous ces jeunes qui sont en banlieue, je leur dis, vraiment, j'ai envie de leur dire, mais après avoir été éducateur, arrêtez de casser, filmez. Filmez maintenant. Filmez tout ce qui se passe autour de vous. Enregistrez, récupérez des preuves des discriminations dont vous doutez, dont vous vous plaignez. Remportez des preuves et privez la police.
Donc vous êtes en train de nous dire. On va le vérifier avec
d'un monopole
et Tazaoui qui sans doute connaît bien la réalité du terrain aussi. Vous êtes en train de nous dire que c'est ce que vous dites là, c'est systémique en fait. Driss et Tazaoui, est-ce que je peux lui répondre ? Est-ce que c'est systémique ? Est-ce que vraiment maintenant il faut que on en vienne à tout filmer systématiquement pour dire « Regardez, se passe ça ». Est-ce que c'est ça qui va apaiser les choses réellement?
Non, ça alimente la défiance. Hein.
Écoutez, on a aujourd'hui, on serait susceptible d'avoir des outils qui auraient permis, peut-être, je dis bien peut-être, vous savez, parce que c'est tellement inattendu, c'est tellement dramatique, que nul n'aurait pu imaginer qu'un simple contrôle routier puisse se terminer de cette manière.
C'est le quotidien.
La scène n'aurait pas été filmée, effectivement, nous n'aurions pas eu les tenants et les aboutissants de ce contrôle. Aujourd'hui, effectivement, on avait demandé à une certaine époque, je crois que c'était Castaner qui était ministre de l'Intérieur, à ce que l'ensemble des policiers puissent être munis de la petite caméra qui va bien, vous savez, pour filmer les interventions. Mais si vous le permettez, vous avez évoqué un sujet important, c'est celui de Jean-Louis Borloo, auprès de qui j'ai travaillé sur le rapport. J'étais présent à l'Élysée au mois de mai, quand le président de la République a balayé d'un revers de la main et le plan et Jean-Louis Borloo en même temps. Et pour avoir travaillé sur la question de l'image des quartiers, parce que c'est un vrai sujet, le nœud du problème, il est là. Vous savez, entre l'hypermédiatisation de la réussite et l'hypermédiatisation de l'échec dans ces territoires-là, vous avez 6 millions de nos concitoyens qui n'aspirent qu'à la tranquillité, qui ne revendiquent que le droit à la banalité et à la normalité. Et aujourd'hui, la politique de la ville, depuis le plan Borloo, eh bien, elle a disparu des radars du gouvernement et du président de la République. Et on a vraiment le sentiment que ce n'est plus un sujet de préoccupation pour le président. Alors même que durant la campagne électorale, on a eu le sentiment que ce serait le président, eh bien, des quartiers populaires, de la politique de la ville, de l'égalité des chances, de la promesse républicaine. Et aujourd'hui, ce sentiment-là, eh bien, il s'est quelque peu délité. Attention, je ne dis pas que rien n'a été fait, bien au contraire, beaucoup a été fait. Mais une fois de plus, tout n'est pas qu'une question de moyens et beaucoup reste une question de considération.
Sa prise de parole d'hier et même ce qu'il a tweeté ce matin, Emmanuel Macron, est-ce que vous dites il a pris la mesure du problème ou pas vraiment?
Vous savez, pour le coup, ça a fait l'objet d'une discussion dans le bureau de l'Association des maires et des banlieues. Moi je pense, enfin, autant je salue le courage du président de la République, parce que c'est effectivement la scène que nous avons, qui nous a été donnée à voir, est inacceptable, elle est injustifiable, inqualifiable et inexcusable. Je trouve qu'il a eu les mots appropriés pour décrire la situation et aussi pour dire à la famille de Maël, eh bien, la peine de la nation. Je trouve que dans la bouche du président de la République, c'est assez courageux. Contrairement à Gérald Darmanin, qui pour le coup a fait le « en même temps », c'est-à-dire « en même temps, je soutiens les forces de l'ordre » et « en même temps, eh bien, j'ai une pensée affectueuse pour la famille de Maël ». Et dans ce genre de situation, on ne peut pas avoir « d'en même temps ». Vous voyez, les images finalement sont assez claires, le parquet s'est exprimé, le policier, et je ne confonds pas le policier et la police républicaine, et ça c'est important, il faut absolument le souligner. La police républicaine, c'est celle dont nous sommes fiers, c'est celle qui nous protège, qui protège les biens et les personnes, et celle-ci elle est irréprochable. Mais il y a des actes qui sont malheureux, et celle du policier était un acte bien plus qu'on pourrait qualifier de malheureux. À bout portant, tu as un gamin de 17 ans qui avait toute la vie devant lui, quelle que soit la trajectoire de ce gamin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on en arrive là. Et moi, je ne confonds pas, et nous autres élus locaux, nous ne confondons pas la police républicaine et puis l'acte de ce policier. Et la raison pour laquelle il ne faut pas jeter l'opprobre et essentialiser l'ensemble de la profession.
Oui, merci. Merci beaucoup. Restez quand même avec nous. Il nous reste encore quelques minutes. William T, ça fait un petit moment que je voulais vous faire réagir, peut-être à la fois sur donc, le plan banlieue. On dit toujours, c'est pas qu'une question de moyens, mais enfin bon, à un moment aussi, il faut mettre les moyens. Et puis, il y a peut-être la question qui fâche aussi. On en parle beaucoup quand même sur nos plateaux. Il faut peut-être arrêter pour inciter aussi et encourager ou donner de l'espoir. Il faut arrêter avec cette économie parallèle que constitue le trafic de drogue.
Ah ben, bah, je pense que c'est le sujet.
Moi,
je pense que c'est le sujet.
C'est un peu l'argent facile aussi.
Ah ben, bah, c'est. Moi,
ça
je suis bien.
Ça pousse pas à s'insérer non plus.
Moi, je pense que c'est le sujet essentiel. C'est pas le nombre de moyens que vous mettez, c'est pas le nombre d'écoles qui est construite, parce que le nombre d'infrastructures publiques, le nombre d'argent déversé dans les quartiers dits prioritaires de la ville a été faramineux, entre 120 à 150 milliards d'euros. Il y a aucune ville, aucun territoire qui a bénéficié d'un tel investissement. Le sujet essentiel, c'est que dans certains territoires, perdus de la République ou vous les appelez comme vous voulez, c'est qu'il y a un modèle parallèle alternatif au modèle républicain. C'est-à-dire que ceux qui dominent, c'est la loi des gangs et la loi des racailles. Ça ne veut pas dire que tout le quartier est comme ça. C'est-à-dire que certains, une minorité, les gangs qui sont organisés, les racailles...
Et les autres ont le droit, quoi.
Et ceux qui bénéficient de ce système-là ont organisé un système qui est parallèle au système républicain. Lorsque vous participez au trafic de drogue et vous gagnez plus en une journée, en une semaine que vos parents, est-ce que vous préférez ce système-là ou intégrer le système qui est plutôt normal, méritocratique, à travers le système scolaire pour éventuellement toucher le SMIC ou 2 000 euros ?
On est obligé de se dire que c'est concomitant comme...
Oui, donc moi je pense que le problème, c'est pas est-ce qu'il a adopté ou pas le plan banlieue, c'est qu'il faut de toute façon faire un plan pour les banlieues. On peut ne pas être d'accord sur les modalités et sur comment faire. Moi je pense que le point, c'est reprendre le contrôle des quartiers, donc opérer une reconquête républicaine. Je pense qu'il faut ensuite détruire les quartiers parce que de toute façon c'est moche. Les gens de ces quartiers ne méritent pas d'habiter dans un endroit comme ça. C'est mauvais en termes d'urbanisme, en termes d'infrastructure et de niveau de vie. C'est catastrophique. Et ensuite après on reconstruit tout à travers plusieurs piliers. L'éducation, l'égalité des chances et faire en sorte que le modèle républicain soit plus attractif que le modèle des CAIRA et du trafic de drogue. Et si par cas notre modèle est plus attractif, eh bien, ils iront davantage vers notre modèle que l'autre modèle que celui des émeutiers, du trafic de drogue et des contestations des forces de l'ordre au quotidien.
On casse tout, on remet tout à plat, Vincent de la Morandière. Je poserai la même question à Idriss Etazaoui.
Il y a quelque chose de très pertinent dans la question que vous posez, et notamment sur l'emprise en fait, du trafic de drogue sur l'économie parallèle. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes qui commencent les petits guetteurs, ceux qui ont 14, 15, 16 ans, qui commencent, etc., qui sont dans le système du trafic de stupéfiants, par exemple, mais pour des sommes qui sont finalement assez risibles. Ils apprendraient à faire un site internet ou à faire des photos pour faire un photo de mariage. Ils auraient une possibilité d'avoir les sommes qu'ils ont avec leur petite mission quotidienne. Parce qu'il n'y a pas que des grands gains, il y a aussi... Le trafic du stupéfiant fonctionne avec beaucoup de personnes.
Oui, mais bon, l'investissement n'est pas le même. C'est-à-dire que si vous voulez faire du numérique, il va falloir faire quelques études et s'investir.
C'est vrai, exactement. Mais aussi, il y a un tabou sur l'argent. Ils sont incapables de se dire qu'on peut gagner de l'argent en France autrement que comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de la question de l'ascenseur social. C'est-à-dire que si vous voulez qu'un jeune ne rentre pas dans l'engrenage, il faut qu'il ait la conviction que s'il est débrouillard, il peut gagner un petit peu d'argent. Et en réalité, il y a plein de choses qu'on peut faire pour gagner un petit peu d'argent dans des métiers simples et aussi dans des métiers manuels. Je vais le dire.
Vous êtes avec nous encore. Je suis contente qu'on élargisse un peu le problème à ce qui se passe uniquement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'au fond, il faut casser cette dynamique? Pardon d'insister sur ça, mais arrêter peut-être cette idée que il y a l'appât du gain, de l'argent facile et que tout est plus commode quand on se livre à des petits trafics en tout genre. Ah, je ne sais pas s'il est toujours avec nous.
Oui, je suis là. C'est à moi que s'adresse cette question, pardon.
Oui, la question est, est-ce qu'il faut casser, comment on fait pour casser cette dynamique de l'appât du gain, de l'argent facile, des trafics divers et variés?
Les spécialistes de la sécurité publique vous diront que les violences urbaines et les émeutes n'arrangent jamais le trafic de stupéfiants. Le trafic de stupéfiants, les voyous, les dealers, sont à la recherche de confidentialité et de discrétion. Dès lors qu'il y a des manifestations comme celle-ci, ce n'est jamais leur avantage. Ce n'est pas un élu local qui vous le dit, ce sont les professionnels de la sécurité publique. Donc je ne suis pas certain que ces manifestations de violence sont au départ à l'initiative des trafiquants de drogue. Je suis quelque peu dubitatif sur le sujet. Ensuite, concernant la rhétorique qui est employée sur votre plateau, j'entends un petit peu la petite musique. Je voulais vous dire, la reconquête républicaine, j'ai pas de difficulté sur la terminologie, mais elle ne peut pas se faire sur des raccourcis. Et les raccourcis sont souvent périlleux. Quand on dit qu'on déverse à fond perdu de l'argent sur ces territoires, c'est pas vrai, je ne peux pas laisser dire ça. Qu'il y ait des moyens importants pour rattraper les déséquilibres de développement sur ce territoire. Parce qu'il faut rattraper les déséquilibres urbains, économiques, sociaux sur le territoire. On part de très loin. Et donc, effectivement, il faut compenser. Et on n'est pas sur une politique d'égalité, on est sur une politique d'équité. Il s'agit de donner un peu plus à ceux qui ont un peu moins. C'est ça le sujet de la politique de la ville. Et donc, de dire qu'on déverse de l'argent à fond perdu, de dire que ce sont les quartiers perdus de la République. Vous voyez, c'est ça, les mots dont nous souffrons, c'est ça, MAUX. Parce que quand vous dites à des enfants qu'ils sont domiciliés sur des territoires qui sont des territoires perdus pour la République et qu'eux-mêmes sont perdus finalement pour la nation, eh bien, quelque part, vous les excluez de la société. Ces territoires-là, c'est l'avenir du pays. Je vous le disais tout à l'heure, 20% de la jeunesse, il est domicilié. L'entrepreneuriat, il est plus important qu'ailleurs. La solidarité, il est plus important qu'ailleurs. Parce que moins vous avez, et plus vous êtes enclin à partager. Donc, vous comprenez, sur un territoire qui regorge de véritables talents et de générosité. Et donc, on ne peut pas essentialiser ces territoires à une minorité de voyous qui se comportent mal. Et dès que vous le faites, eh bien, vous jetez l'opprobre et vous jetez au chien la dignité et l'honneur de toute une population. Et c'est de ça contre quoi il nous faut nous prémunir.
D'accord, mais bon, là, hier, je vais vous laisser la parole, William, pour lui répondre, mais hier, moi, ce que j'ai vu, comme vous tous, c'était des garçons plutôt jeunes. À quel moment la colère des habitants, qui, eux, sont pris en otage, s'exprime aussi? Enfin, je veux dire, eux aussi, ils en ont marre, quoi.
Moi, je pense que c'est le point essentiel, parce que Quand moi je dis qu'il y a des quartiers perdus de la République, c'est je dis pas tout le quartier est perdu. Je dis qu'ils sont tenus par la loi des gangs et la loi des racailles. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui tiennent un quartier. Est-ce que vous avez forcément une assimilation totale entre les trafiquants de drogue et les racailles? Pas forcément. C'est encore une fois, vous faites un amalgame. C'est-à-dire que toutes les racailles ne sont pas des trafiquants de drogue. Mais vous avez une sorte de culture et une sorte de mainmise. Et c'est la loi du plus fort qui règne. C'est pas la loi de la République, c'est la loi du plus fort qui règne dans ces quartiers. Et au final, ce sont les habitants qui perdent à chaque fois. Ce sont les habitants, ce sont les jeunes. Parce que de toute façon, le modèle social est plus attractif et les jeunes se dirigent là-dessus. C'est ça le problème essentiel.
Regardez, justice pour Naël, ACAB, ce slogan. Alors on disait, voilà, il faut pas haïr toute la police, mais bon. Pour l'instant, ça s'est transformé en haine de la police dans son entièreté. C'est en train de dégénérer avec ces tags et toujours cette situation un peu qu'on comprend pas très bien, avec des jeunes qui marchent, qui errent un peu, et puis les policiers non loin. Alors, est-ce que ce sont des gens en train de rentrer chez eux ou est-ce qu'il y en a parmi eux qui se sont greffés dans la foule et qui veulent continuer à en découdre? Est-ce que vous pouvez nous commenter l'image sur le terrain?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, les forces de l'ordre sont en train de repousser tous les manifestants vers la cité Pablo Picasso. Mais il y a énormément de personnes, beaucoup plus que dans les manifestations plus classiques dans les cortèges parisiens. Il y a énormément de personnes, ce qui fait qu'à chaque charge des forces de l'ordre, c'est une véritable pluie de gravats qui s'abat sur eux. C'est donc très difficile de progresser. Ils utilisent énormément de mobilier urbain. Donc, on est en pleine rue. Les rues n'ont pas été préparé à ce genre de manifestation. Donc, n'importe quel parterre mobilier urbain est utilisé pour entraver le passage des forces de l'ordre. Il y a énormément beaucoup de dégradation des banques qui sont utilisées.
Merci beaucoup. Restez pas loin. On aimerait que vous nous commentiez encore l'image avec cette journée qui est en train de s'étirer. Il est pratiquement 17h, mais vous le savez, généralement, les jours rallongent en ce moment et généralement, les problèmes démarrent à la nuit tombée, hein. Donc on verra, ça va être un calme précaire sans doute jusqu'à 23 heures. J'aimerais qu'on revienne quand même à ce débat de fond qu'on a un petit peu enclenché ensemble, à la fois avec vous, Vincent de la Morandière, et également avec Driss Etazaoui. Comment, au-delà des moyens, pardon d'insister, mais on a quand même mis le paquet sur l'éducation. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, Driss Etazaoui? Sur l'éducation, c'était une des priorités d'Emmanuel Macron, le dédoublement des classes de CP. Ça a commencé avec les zones prioritaires. Ouais. Enfin, je veux dire, est-ce que ça a été probant? Est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura une génération qui se sentira peut-être un peu plus prise en considération dans 10-15 ans? Parce que là, j'étais en train de réaliser hier que ceux qui sont dans les rues depuis hier sont sans doute ceux qui sont nés aux alentours de 2005. Il y a quelque chose d'assez ironique, hein, finalement, dans ce scénario. Driss Etazaoui, vous êtes toujours avec nous?
Sur la question éducative, vous avez raison de le souligner. Je vous disais tout à l'heure qu'on a eu un certain nombre d'avancées significatives de la part de ce gouvernement. Vous voyez, je pense qu'il faut être totalement objectif. Qu'on soit communiste, qu'on soit LR, qu'on soit centriste, chacun s'accorde à dire que le dédoublement de classe a été une opportunité et une bonne chose. Je n'ai jamais entendu un élu local, et en particulier dans notre association qui est transpartisane, rejeter la proposition sur les dédoublements de classe. Au contraire, pour le coup, c'est une initiative qui est saluée. Les cités éducatives, aujourd'hui 200 cités éducatives, qui justement devraient répondre aux difficultés que l'on rencontre aujourd'hui. C'est quoi la cité éducative? C'est comment est-ce qu'on accompagne l'enfant dans son éducation, avant, pendant et après. L'instruction, c'est l'affaire de l'école, et l'éducation, c'est l'affaire de tous, des parents comme de l'environnement immédiat de l'enfant. Et ces cités éducatives, aujourd'hui, il y en a 200, et l'idée, c'est de pouvoir les élargir. Et donc, faire en sorte que tous les quartiers de la politique de la ville, toutes les communes qui ont un certain nombre de quartiers, les villes de banlieue, puissent en bénéficier. Ça, c'est une demande que notre association a faite auprès du ministère de la ville. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont plutôt positives, qui vont dans le bon sens, mais qui probablement ne suffisent pas. Alors, Catherine Arnoux, maire de Chanteloup, vous dira, il faut absolument miser sur la question éducative parce que l'égalité des chances, elle part de là. Il faut armer nos enfants dès le plus jeune âge et de la même manière. Et elle a raison. Philippe Rio, maire de Grigny, vous dira peut-être l'emploi. La question de l'emploi, elle est éminemment importante parce que c'est un facteur d'insertion sociale. Le travail éloigne de nous trois grands mots, MAUX, l'ennui, le vice et le besoin. Quand vous avez un boulot, eh bien, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer, vous n'avez pas les besoins en fin de mois, et puis vous n'avez pas le temps de faire des conneries. Donc vous voyez, d'autres vous diront, c'est la question de la mixité sociale. Comment est-ce que finalement, au sein de ces quartiers-là, eh bien, on arrive à développer la mixité, à diversifier le peuplement sur le territoire. Moi, ce n'est pas un mot tabou, hein. Je le dis avec beaucoup de facilité. Comment on arrive à diversifier? Comment on fait en sorte que dans des cages d'escalier, on n'ait pas des gens d'une seule et même communauté? Et ça, c'est tout le travail des bailleurs sociaux, de l'État dans le cadre de son contingent, mais également des élus locaux. Et nous avons aussi une part de responsabilité de faire en sorte que ces territoires soient les plus divers possible. Je vous donne un exemple à Évreux, qui est un exemple formidable. J'en termine juste là parce qu'il est important. Ville d'Évreux, nous avons un commerce qui appartenait à la Société Générale. La Société Générale doit partir, doit quitter le quartier pour un certain nombre de raisons. Et on a un repreneur qui veut faire un bazar. Je dis au maire, stop, il faut absolument préempter. Parce que diversifier le peuplement, c'est diversifier l'offre commerciale aussi. Et faire en sorte d'accueillir des commerces qui n'existent pas sur nos quartiers, loin d'un certain nombre de commerces classiques, homogènes que l'on connaît et que je ne citerai pas là. Et ben aujourd'hui, parce qu'on a eu cette opération-là, et bien c'est 4 professions libérales qui vont s'installer dans ce local. C'est 2 dentistes, un médecin généraliste et un ophtalmo. Nos habitants, ils sont contents. Vous voyez, il faut absolument qu'on arrive à développer une politique qui va nous permettre de diversifier le peuplement par la diversification aussi de l'offre commerciale et de l'offre de services sur le territoire.
Merci, je crois que vous aviez assez bien résumé le propos. Vincent Lamorandière, quelques mots encore avant.
Oui, en fait, pour finir, à mon avis, avec les jeunes et avec la dynamique d'insertion, j'ai toujours constaté en fait qu'il fallait associer 3 choses qui étaient un peu opposées. La compassion. Il faut avoir de la compassion. Si on regarde de haut, ça ne marche pas. La compétence, la transmission de compétences et agir avec une véritable compétence, c'est savoir dire non pour les éducateurs, mais aussi le contrôle. Compassion, contrôle et compétence.
Les 3 C. Merci beaucoup. Merci également, William T, d'avoir été des nôtres. Et merci beaucoup, Driss et Azaoui. Je ne sais pas s'il était encore avec nous. On va continuer, bien sûr, de suivre cette journée de marche blanche, enfin cet après-midi, et un petit peu, comment dire... d'attente avant la soirée. On espère évidemment que ça ne va pas tourner de la même manière. Laurence Ferrari, vous continuez de suivre cette actualité, notamment ces tensions qui se sont fait jour en fin de cortège à Nanterre.
Effectivement, merci beaucoup Nelly. On va évidemment poursuivre cette édition spéciale sur CNews avec ces tensions qui ont été en marge de cette...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.